Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 8 avril, Chérubin Dorcil à Washington, accompagné de Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, les États-Unis appellent le président du Burundi à respecter la constitution et les libertés civiles et politiques.
Tout en reconnaissant les avancées réalisées depuis la fin de la guerre civile en 2005, elle a surtout insisté sur le risque de retourner dans la violence de masse.
Nous aurons le reportage d'Eric Manirakiza. Pas d'application possible de l'accord cadre d'Addis Abeba sans la participation de la société civile congolaise. Déclaration de la représentante de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Le Niger inaugure sa première gare ferroviaire.
Et dans la joie, beaucoup y voient déjà l'impact du train dans l'amélioration de l'économie nigérienne.
Reportage à suivre de notre correspondant à Niamey. Ici aux États-Unis, Barack Obama plaide pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Et ne manquez pas les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Et nous ouvrons sur la République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, a visité la province du Sud Kivu ce mardi. Elle a eu plusieurs réunions avec les autorités et la société civile. L'essentiel de ces réunions a porté sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la lecture de cet accord par la société civile. De Bukavu, le reportage de Jolie Kamuntu.
Après une réunion avec le gouvernement provincial du Sud Kivu, Mary Robinson s'est entretenue avec la société civile du Sud Kivu, et notamment de l'implication active de la société civile dans les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de la réunion, nous avons approché quelques acteurs de la société civile.
Nous avons parlé de mauvaise gestion des questions identitaires comme l'une des causes des conflits. En RDC.
Nous avons parlé de la lutte contre l'impunité, où nous avons rappelé qu'il y avait un rapport mapping des Nations Unies sur les crimes commis entre 1993 jusqu'en 2003, que les recommandations n'avaient pas encore été en application.
Mary Robinson, elle a noté qu'aujourd'hui, il est impossible de réussir à asseoir l'accord cadre d'Addis Abeba et les autres accords signés par les chefs d'État sans impliquer la société civile. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique.
Au Mali, après l'annonce des 3 cas suspects de fièvre hémorragique par le gouvernement malien la semaine dernière, les résultats de 2 cas sont maintenant connus. Il ne s'agit pas du virus Ebola. C'est ce que révèlent les tests réalisés à partir des prélèvements. Kassim Traoré.
La découverte de 3 cas suspects avait suscité beaucoup de tensions en commune 4 du district de Bamako, commune qui devrait accueillir les 3 suspects. Mais aujourd'hui, il y a un ouf de soulagement. Siriman Bachili, maire de la commune 4 du district de Bamako, explique.
Mais Dieu merci, les 2 cas ont été avérés qu'ils ne sont pas malades de fièvre Ebola. Les résultats venus des États-Unis, c'est clair. Mais le premier qui est venu, qui a fui, qui venait de mines d'or, qui a fui, on n'a pas eu le temps de prendre le sang. Et le prélèvement a été fait après. C'est parti, le résultat n'est pas encore fait.
Pour éviter des incompréhensions. La population et la mairie viennent de mettre en place une brigade de surveillance.
Que la maladie Ebola qui est annoncée pouvait être un frère à moi, un frère à l'autre, une tante à l'autre. Ensemble, on doit se donner la main et laisser les fausses informations faire face à ce cas.
Le souhait des autorités de la commune 4 est que le 3e cas suspect en cours d'analyse soit aussi négatif comme les 2 précédents. Bamako, Kassim Traoré, la voix de l'Amérique.
En Égypte, 4 homosexuels ont été condamnés à la prison. La presse égyptienne affirme que les hommes étaient accusés de pratiques sexuelles déviantes et de s'habiller en femme. Michel Joseph.
Le verdict rendu par le tribunal égyptien n'a pas eu grand écho dans la presse locale. 3 accusés sont condamnés à 8 ans de prison et le 4e a écopé de 3 ans. Ils peuvent interjeter appel. Leur nom n'a pas été révélé pour ne pas gêner leur famille. Un sociologue réputé, mais qui a voulu garder l'anonymat, déclare que l'homosexualité n'est pas souvent poursuivie en Égypte, car la police est occupée à des questions plus importantes. Être homosexuel est pire que ne pas croire en Dieu. Nous avons des athées qui s'assument, mais on ne peut trouver d'homosexuels qui s'affichent en disant « je suis homosexuel ». C'est un sujet vraiment tabou. Un film égyptien intitulé « L'immeuble Yacoubian » y fait allusion, mais les préjugés sont énormes. En 2012, Hazim Abou Ismaël, un éminent islamiste, a été éventuellement écarté de la course à la présidence lorsque la presse l'a accusé d'être un homosexuel. Abou Ismaël avait nié les accusations, mais rien que les allégations peuvent ruiner la carrière d'un homme politique ou d'un éminent acteur. C'est même difficile d'en parler sans soulever l'indignation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie manœuvre pour inclure les régions du sud de l'Ukraine dans les négociations sur l'avenir de ce pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce mardi à Moscou que la Russie veut la représentation de ces régions largement russophones dans des négociations multilatérales. Jean-Roger Bion.
Moscou est sur tous les fronts et a interpellé l'Ukraine pour qu'elle mette fin à ce que Sergueï Lavrov considère comme des préparatifs qui pourraient mener le pays à la guerre civile. Kiev a annoncé 70 arrestations dans une opération antiterroriste pour chasser les manifestants pro-russes qui se sont emparés d'un bâtiment public dans la ville de Kharkiv. Des manifestants pro-russes ont occupé dimanche des bâtiments publics dans les villes ukrainiennes de Kharkiv, Donetsk et Louhansk. Ils réclament des référendums pour se séparer de l'Ukraine dans la lignée du vote en Crimée pour allier la Russie. La Maison-Blanche affirme détenir des preuves selon lesquelles certains manifestants ne sont pas des russophones locaux, mais des gens venus d'ailleurs qui ont été payés pour semer la pagaille. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Russie de désavouer ceux qu'il qualifie de séparatistes et de saboteurs. À Paris, le chef de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen a averti que la poursuite de l'intervention russe en Ukraine serait une erreur historique qui pourrait davantage isoler la Russie.
Les inégalités salariales entre hommes et femmes, un problème mondial. Ce mardi aux États-Unis, c'est la journée pour le salaire égal. Alors que les femmes composent près de la moitié de la population active américaine, en moyenne, pour chaque dollar gagné par un homme, une femme ne gagne que 77 centimes. Le président Barack Obama en a profité depuis la Maison-Blanche pour lancer de nouvelles initiatives. Nicolas Pineau.
Et face à cette inégalité persistante, Barack Obama propose de nouvelles mesures, l'interdiction pour les entreprises travaillant avec le gouvernement américain de sanctionner leurs employés qui évoquent les questions salariales. Le président américain encourage à plus de transparence.
Equal pay for equal work.
À travail égal, salaire égal. Ce n'est pas si compliqué. C'est bien d'avoir une journée, mais c'est encore mieux d'avoir un salaire égal. Autre annonce, les entreprises travaillant avec le gouvernement américain doivent fournir des données au ministère du Travail concernant la rémunération de leurs employés selon leur sexe ou leur race. Ce mercredi, le Sénat américain doit se pencher sur une nouvelle proposition de loi sur l'égalité salariale dans l'entreprise.
Attentat dans le sud-ouest du Pakistan. Une bombe a explosé dans un train transportant des passagers dans la province du Baloutchistan. On compte au moins 14 morts. Les autorités locales pensent que la bombe commandée à distance était cachée dans les bagages d'un passager. Un groupe rebelle, l'armée Baloutche Unie, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les rebelles Baloutches luttent pour un plus grand contrôle des ressources naturelles du Baloutchistan ou voire la sécession de leur région.
Au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans le Cachemire indien lors d'une fusillade. Selon les autorités, les victimes sont 2 policiers, 1 soldat et 2 militants. Une opération conjointe de l'armée et de la police indienne est à environ 130 km de la ville principale, Srinagar. New Delhi aurait reçu des renseignements sur des activités de militants dans la zone. Le Cachemire, rappelons-le, est revendiqué par l'Inde et le Pakistan qui ont fait la guerre 2 fois déjà à cause de ce différent territorial.
Poursuite des discussions sur le nucléaire iranien, Téhéran et les puissances mondiales sont réunis à Vienne en présence des 2 principaux négociateurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, et la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. C'est la 3e rencontre du genre. L'objectif est de parvenir d'ici la fin juillet à un accord assurant le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Les 2 parties espèrent commencer la rédaction de l'accord le mois prochain.
C'est la course contre la montre dans le sud de l'océan Indien. Des chercheurs essayent de localiser des transmissions électroniques émises, croit-il, par la boîte noire de l'avion de Malaysia Airlines, disparu il y a 1 mois. Ils n'ont perçu aucun signal depuis dimanche. Le directeur de l'équipe de recherche, l'Australien Angus Houston, a déclaré aujourd'hui dans une conférence de presse que sans d'autres signaux radio, les autorités ne peuvent déployer un robot pour examiner le fond de l'océan. la recherche de l'épave. L'avion avait 239 personnes à bord.
Le Fonds monétaire international parle d'un renforcement de la relance économique mondiale avec une augmentation du taux de croissance en 2014 et 2015. Le FMI prévoit une croissance de 3,6% cette année et 3,9% l'an prochain, comparativement à 3% l'année dernière, a déclaré Olivier Blanchard, conseiller économique au FMI. La relance semble plus solide aux États-Unis que partout ailleurs, avec une projection de croissance de 2,8% pour 2014. Cependant, l'inégalité croissante entre les riches et les pauvres s'aggrave, fait remarquer l'expert du FMI. Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 13h40, plutôt 14h40 ici à Washington. Chez Robin Dorsil en compagnie de Morgane Guériec, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, en visite au Burundi, où elle appelle le président Pierre Nkurunziza à respecter la Constitution et les libertés civiles et politiques.
L'ambassadeur Samantha Power s'est dit préoccupé par la résurgence des signes de violence à motivation politique et le rétrécissement de l'espace démocratique au Burundi. Samantha Power était à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant entre autres le secrétaire d'État adjointe pour les affaires américaines Linda Thomas Greenfield. Reportage Eric Manirakiza.
C'est la toute première fois qu'une délégation américaine de haut niveau visite le Burundi. Les entretiens entre l'ambassadeur Samantha Power et le président Pierre Nkurunziza ont duré 2 heures de temps. La représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies portait deux messages essentiels du président Obama à son homologue burundais. Tout en reconnaissant les avancées réalisées depuis la fin de la guerre civile en 2005, elle a surtout insisté sur le risque de retourner dans la violence de masse. L'ambassadeur Samantha Power s'est aussi exprimé sur le troisième mandat dont veut briguer le président Pierre Nkurunziza contrairement à la Constitution.
The second part of my message regards concerns we have around the political space.
Notre deuxième message est lié aux préoccupations concernant l'espace politique ici dans le pays, aux préoccupations qu'il soit permis à l'opposition, aux médias et aux journalistes comme vous de continuer à s'exprimer librement. Des préoccupations concernant les restrictions croissantes de la latitude qu'a la société civile de se réunir ou même de manifester. Nous avons souligné que le président a un formidable héritage, que le peuple burundais et lui ont réalisé d'importants succès de 2005 à nos jours. Nous croyons qu'il peut laisser un héritage respectueux de la Constitution, l'héritage de l'homme qui a contribué à l'instauration de la démocratie moderne au Burundi. Ainsi, nous l'exhortons à respecter la Constitution, l'état de droit et les droits de l'homme.
En dehors de cette rencontre avec le numéro 1 burundais, l'ambassadeur Samantha Power a tenu à rencontrer les dirigeants des partis politiques, de la société civile et de la jeunesse burundaise. Pour Maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD, Mouvement pour la solidarité et la démocratie, le principal parti de l'opposition dirigé par l'ancien journaliste Alexis Sindouhidje, aujourd'hui en cavale, estime que cette visite démontre que le gouvernement américain ne prend pas à la légère ce qui se passe au Burundi.
On a eu le sentiment, et c'est même visible, que le gouvernement des États-Unis est préoccupé et comprend la réalité de la situation au Burundi. Et qu'il mesure à sa juste valeur les conséquences possibles d'une telle situation.
L'ambassadeur Samantha Power a annoncé l'octroi d'un montant supplémentaire de 7 520 000 dollars américains pour soutenir le Burundi dans l'organisation des élections crédibles, inclusives et pacifiques en 2005. Eric Manirakiza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
Niamey, la capitale du Niger, a sa première gare ferroviaire depuis hier. C'est aussi la première du pays, Gabi.
Elle a été inaugurée par le président Mahamadou Issoufou, qui commémorait le 3e anniversaire de son accession au pouvoir. Il faut dire que cette inauguration marquait aussi le lancement du tronçon nigérien d'une boucle ferroviaire qui reliera 5 capitales de l'Afrique de l'Ouest, Lomé, Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est le groupe Bolloré qui finance l'ensemble de ses travaux et prend tous les risques.
C'est un vieux rêve des Nigériens qui voient ainsi son début de réalisation. Tous les chemins de fer de la sous-région ouest africaine devaient en effet finir à Niamey, la capitale du Niger, dont un des quartiers est même dénommé Terminus. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, le président Issoufou Mahamadou s'est engagé pour que ce rêve du peuple se réalise sous son mandat et il a choisi le jour anniversaire de son investiture pour commencer à le concrétiser.
Le chemin de fer est historiquement né dans les mines. Il est heureux que ça soit à un ingénieur de mine que l'histoire ait donné la chance de le promouvoir au Niger. Je suis sûr que chaque Nigérienne et chaque Nigérien saisit la portée historique de l'événement, la présence nombreuse des habitants de Niamey en constitue une preuve éloquente. Désormais, Niamey mérite qu'un de ses quartiers porte le nom de Terminus. C'est cela la promesse que j'ai faite au peuple nigérien.
Une simulation de l'arrivée du train à la gare a été faite sur les 500 mètres de rails déjà construits par la société Bolloré. Et dans la joie, beaucoup y voient déjà l'impact du train dans l'amélioration de l'économie nigérienne. Alma Oumarou, ministre du Commerce, et Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de Commerce.
J'ai désormais tout ce que nous importons. Certainement que le train est une baisse significative et ce que nous exportons également.
Je crois que l'arrivée des trains, c'est une opportunité aussi, je dis, pour le ravitaillement de nos marchandises et surtout pour le ravitaillement de notre pays à temps et à des coûts moindres.
C'est donc cet important événement qui a marqué le 3e anniversaire de l'investiture du président Issoufou Mahamadou à la tête du Niger. Déjà, la veille de cet anniversaire, il a dressé dans un message à la nation un bilan satisfaisant de la mise en œuvre du programme politique sur la base duquel il a été élu. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour la Voix de l'Amérique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie depuis Washington, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Chute vertigineuse des recettes douanières en Afrique, une situation qui pourrait conduire à de graves difficultés financières et ralentir le développement. Le commerce transfrontalier et les taxes qu'il génère ont pris un sérieux coup à cause de l'insécurité dans plusieurs régions. Nathalie Barge.
Le Forum mondial sur la transparence, lors d'une réunion cette semaine à Yaoundé, a souligné que la République centrafricaine a perdu la quasi-totalité des 6 millions de dollars de droits de douane habituels. D'autres pays tels que le Gabon, la République du Congo, le Tchad et le Soudan ont perdu jusqu'à 40% de leurs recettes douanières. Une partie de la perte découle de l'augmentation du commerce illégal ou informel et de la diminution du commerce transfrontalier à cause de l'insécurité. Epen Congo, des services de surveillance douanière du Cameroun, dit que les agents des douanes doivent être mieux équipés pour pouvoir faire face aux nouveaux défis comme la présence de Boko Haram et la piraterie maritime. Ce n'est pas vraiment une question d'armes, c'est une question de renseignement. Il faut poursuivre la coopération militaire pour recueillir des informations sur la façon dont ces groupes opèrent. Même si nous avons les armes, ce n'est pas la tactique ou la stratégie de lutte contre certains de ces crimes. Le ministre des Finances camerounais, Alamine Ousmane May, dit que l'Afrique doit coordonner ses services de douane pour empêcher les mouvements terroristes de nuire à l'économie du continent.
Il est donc important que le côté transparence, le côté échange de renseignements puisse être densifié pour que ceux des acteurs qui sont en marge des dispositions légales, fiscales, soient traqués, mais de manière concertée. Et ça conduit à ce que les aspects de transparence soient également traités.
Le problème de la piraterie dans le golfe de Guinée a été largement débattu lors de la rencontre à Yaoundé. Les données du Bureau maritime international montrent qu'environ 1000 marins et pêcheurs ont été attaqués par des pirates armés dans cette région l'an dernier.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, 20 ans après le génocide au Rwanda, les leçons ont-elles été apprises? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Et maintenant, les témoignages des 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Lubumbashi Narval Mabila. Plus de 10 000 creuseurs exploitent dans la carrière de Lupoto appartenant à la Générale des Carrières et des Mines. Ils ont été sommés de quitter la concession de la Gécamine par les autorités. Malgré cette décision, les creuseurs continuent à exploiter la carrière. Ils se défendent. C'est par manque de création d'emplois par le gouvernement qui se trouve dans la carrière. Une grande partie de l'Ouchoua apprécie la présence des creuseurs dans la carrière de Lupoto. Selon eux, cela a diminué le chômage, la criminalité. D'autres pensent que les contrats de la Générale des Carrières et des Mines profitent beaucoup plus aux autorités du gouvernement central et aux membres du comité de gestion qui touchent les pots de vin.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Chuck Hagel, et son homologue chinois ont vigoureusement défendu aujourd'hui à Pékin les objectifs politiques contradictoires de leurs pays respectifs dans la région. Les précisions de Lionel Gaïma.
Washington et Pékin ont des relations tendues ces derniers mois. En novembre, Chuck Hagel a critiqué la décision de la Chine de créer une zone d'identification et de défense aérienne sur un espace disputé avec le Japon.
The United States has been very clear on this issue.
Les États-Unis ont été très clairs sur cette question. Chaque pays a le droit d'établir des zones de défense aérienne, mais n'a pas le droit de le faire de manière unilatérale, sans collaboration ni consultation. Cela ajoute aux tensions, aux malentendus, et pourrait éventuellement aboutir à un dangereux conflit. Avant son arrivée en Chine, le secrétaire américain à la Défense a déclaré pendant son escale au Japon que la Chine devait être plus ouverte sur le développement de son armée et devrait respecter ses voisins. Son homologue chinois, le général Wang Quan, a répondu que son pays ne va pas provoquer inutilement le Japon, mais qu'elle reste prête à protéger son territoire. En ce qui concerne les différends sur des îles, des récifs et des frontières maritimes, le changement pour la Chine signifie d'être prête à résoudre ces problèmes par des négociations avec les pays directement concernés. La Chine et le Japon ont un litige sur un archipel en mer de Chine orientale, appelé Diaoyu, par les Chinois et Senkaku par les Japonais. L'automne dernier, la Chine a établi une zone d'identification et de défense aérienne en s'arrogeant le droit de prendre des mesures contre tout avion qui survolerait sans autorisation préalable. Autre contentieux, les États-Unis ont accusé la Chine de mener des multiples attaques en ligne contre les agences américaines. Chuck Hagel attend faire pression sur les Chinois sur ces cyberattaques. Lundi, le patron du Pentagone est devenu le premier responsable étranger à visiter l'unique porte-avions chinois, le Liaoning, qui n'est pas encore tout à fait opérationnel.
Le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, les sports avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin, bonsoir Morgan.
À suivre dans quelques minutes les quarts de finale, retour de la Ligue des Champions en Europe.
Avec 3 buts d'avance, le Real se déplace au Borussia Dortmund. À Stamford Bridge, les Blues de Chelsea accueillent le Paris Saint-Germain après la défaite à l'aller 3-1 et à suivre demain les 2 autres matchs. L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone après un match nul 1 partout à l'aller. Même score avant le match en Allemagne entre le Bayern de Munich et Manchester United.
Hervé Renard, très annoncé du côté du Maroc après la fin du championnat de France.
Et oui, invité de Sporama hier, l'ancien sélectionneur de la Zambie, vainqueur de la CAN 2012, est revenu sur son pari avec le FC Sochaux et ses envies pour la saison prochaine. L'Europe tient la corde, mais l'Afrique n'est jamais bien loin en raison de la CAN 2015. Au Maroc, on l'écoute.
Peut-être que je serai en Ligue 1. C'est mon premier souhait, c'est de rester en Europe pour être à la tête d'une équipe qui soit plus compétitive que le FC Sochaux cette saison. Il y a quelques petits contacts qui avancent petit à petit, donc on verra. Et puis si jamais les choses ne m'intéressent pas, et ben je retournerai, oui, comme vous l'avez deviné, en Afrique, et je serai peut-être soit déjà qualifié, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors je prendrai une équipe qui entamera ses qualifications en septembre. Maintenant, j'ai besoin de challenges qui soient hyper intéressants. Je vais vous dire, puisque vous m'appelez des USA, c'est dans un petit coin de ma tête aussi. Je pense que c'est un pays en devenir au niveau du football et pourquoi pas un jour mettre un pied sur ce continent. Si on fait appel à moi, j'en serais ravi en tout cas.
Voilà, Hervé Renard qui attend un coup de fil des États-Unis. Une interview à retrouver sur le www.lavoixdelamérique.com.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Alors, Chérubin, désolé pour les fans de NBA, il n'y avait aucun match hier soir à cause du championnat universitaire de basketball. C'était la finale entre Kentucky et l'Université du Connecticut. Et c'était un match télévisé, très regardé aux États-Unis.
Super, super et superbe.
Évidemment, et c'est l'Université du Connecticut qui est la nouvelle équipe championne universitaire en battant Kentucky par un score de 60-54. Et alors pour ceux qui vivent aux États-Unis, il y a eu des incidents hier sur l'université, le campus de Connecticut. Ils ont tellement célébré, ils ont arraché quelques panneaux, etc. La police a dû intervenir. Hein.
Oui, ça arrive souvent quand il y a surtout la finale de la NCAA. Et ça ne m'étonne pas que ça soit produit au Connecticut.
Et la folie dans les stades et en dehors. Hein.
Donc c'est pas pour rien qu'on appelle ça Mars en folie. Merci Nicolas Pinault.
Merci.
Voilà, et comme tous les soirs, notre page musicale avec Roger Muntou. Et ce soir, on écoute Raffia.
Exactement, Morgane. Vous savez, Morgane, quand je suis là dehors à Washington, je vois beaucoup, beaucoup d'artistes de la diaspora qui se débrouillent pas mal. Alors, l'auteur-compositrice Raffia est une artiste congolaise qui chante en anglais et en français. Sa passion s'est traduite dans ses mélodies, un subtil mélange de R&B, soul et afro-jazz. Elle nous fait goûter en exclusivité son nouveau single « My Number ». Après son premier album intitulé Amazing, elle bosse sur un deuxième, dit-elle.
Ah là, alors je travaille sur mon deuxième album qui est prévu de sortir cet été. Mais je viens de sortir le premier single de cet album il y a moins d'une semaine. Donc là, vraiment, c'est juste studio et vraiment m'assurer que le produit final sera le meilleur possible.
Super, alors parle-nous un peu de ce single-là qui fait déjà du bruit sur Internet, partout.
Alors, ça s'appelle My Number et c'est en featuring avec un MC ghanéen qui s'appelle MOA. Et voilà, donc c'est une chanson très upbeat qui va definitely vous faire danser et tout, mais c'est, ça parle de traiter son conjoint avec respect et beaucoup d'amour. Et donc vraiment, c'est une chanson très upbeat que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. Et je sais que tout le monde... les bras et pourra vraiment,
Ben, merci Raffia, écoute avec ta permission, on va bien l'écouter, on va bien suivre ce morceau et espérons te voir ici à la Voix de l'Amérique prochainement, n'est-ce pas?
Oui, ce sera avec très très grand plaisir, merci beaucoup pour tout, Raja.
I never wanna wake up. Yeah. And she's so fly with or without the makeup. Kisses on her neck and I'm loving every moment. Smile so bright and we live it in a moment. Wait, yeah, love at first sight. Oh. My meal number, it feels so right. Oh. Put my arms around you, it feels so tight. I'ma never let go cause you're just
my
sight.
Voilà, c'était donc Raffia, My Number. Merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs à 20h01, temps universel, dans le RM Show.
No wishful thinking, we're written in the stars. That man is all I want to satisfy my hunger. I will treat you like a king. Everything you need, come satisfy my hunger.
s'achève Le Monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Tian Wang était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur fr@vonnews.com. Ici, chez Romain Dorsil
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.